Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Bienvenue en 2019 également, bonne année. Ce sont des questions qui sont dans l'air du temps et que l'on se pose de plus en plus souvent à mesure que les études sur le changement climatique pointent la responsabilité des gaz à effet de serre, la consommation d'énergie fossile dans le réchauffement global. Et c'est la même chose pour les déchets de toute nature ou pour le transport de la production et des personnes. La prise de conscience est réelle et si elle n'est pas toujours généralisée, elle existe. Mais cela remet largement en question le système économique dans lequel la production est largement calibrée pour une consommation de masse à une échelle mondiale. Peut-on produire sans polluer? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Sylvie Faucheux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités en économie du développement durable et directrice de l'IFG exécutive internationale. Et Bernard Christophe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien professeur en gestion à l'université de Picardie, auteur de La croissance écologique transforme l'entreprise. C'est aux éditions de l'Harmattan. Pour produire, il faut des matières premières, un outil de production, une main d'œuvre, de l'énergie. Qu'est-ce qui pose le plus problème actuellement de tous ces facteurs de production en termes d'environnement, Sylvie Faucheux?
Ce qui pose problème, c'est que l'on extrait de plus en plus de ressources naturelles. Entre 1900 et 2015, l'extraction de ces ressources naturelles a été multipliée par 12. Et on pense que d'ici 10 ans, ça sera multiplié par 2. Donc en fait, on utilise beaucoup de ressources naturelles qui sont en train de disparaître. D'autres polluent et on les retrouve dans la nature. Donc à la fois, un problème d'épuisement et un problème de déchets, de pollution.
C'est pour vous aussi la question principale, Bernard Christophe, les réserves de toutes les matières premières ne sont pas inépuisables ?
C'est bien évidemment le problème de base, c'est qu'effectivement, on essaye de faire fonctionner une économie de plus en plus croissante dans un monde qui est fini. Mais bien entendu, derrière, il y a d'autres problèmes, notamment d'ordre organisationnel, qui se posent par rapport à ça.
Alors justement, dans les facteurs de production que j'ai énumérés, est-ce que vous en voyez un qui pose plus problème que les autres ? Matières premières, outils de production, main-d'œuvre, énergie?
Disons que le problème, pour moi, le plus important directement, c'est l'énergie. Bon, avec toujours le problème des gaz à effet de serre, si on veut, disons, paraît au plus pressé. Mmh. Mais il est évident que des problèmes comme l'eau sont aussi importants que le problème de l'énergie.
Mmh. Voilà. Est-ce qu'on peut faire mieux que ce qui existe actuellement sur les déchets et la pollution? Est-ce que les solutions techniques, elles existent, Sylvie Faucheux?
Oui, il y a beaucoup de solutions. Et d'ailleurs, depuis la COP21, on voit que beaucoup d'entreprises, mais aussi des grandes villes dans le monde, proposent des solutions. Il y a des solutions, on peut dire des innovations technologiques radicales, comme par exemple la chimie verte ou l'aluminium vert. D'ici 2024, les Canadiens vont être capables de produire de l'aluminium qui n'émettra pratiquement plus de CO2, ce qui est vraiment une rupture technologique. Mais il y a aussi des services qui peuvent remplacer des produits. On peut penser à l'écomobilité, donc des services à la mobilité. On produit moins de voitures, on partage des voitures. Et puis, il y a surtout le changement de business model, de système de production avec toute l'économie circulaire qui est la principale directive européenne qui est en train de se mettre en place dans tous les pays. La France l'a adoptée aussi en 2018 avec 50 mesures pour l'économie circulaire. Et là, il s'agit de produire de façon différente avec des matières recyclables et également avec des produits qui soient réutilisables. On peut donner l'exemple de la production d'acier. Lorsque c'est une production d'acier neuf, on utilise cela émet 3 tonnes de CO2, alors que lorsque pour la même quantité on a un acier qui est recyclable, c'est une tonne. Donc l'on voit qu'il y a des solutions diverses qui nécessitent plus ou moins de moyens.
Bernard Christophe, il faut produire différemment avec des solutions plus propres ou est-ce qu'il faut carrément envisager de produire moins ?
Je crois que c'est les deux choses auxquelles il faut penser, effectivement, puisque bon, tout à l'heure, c'était la décroissance dont je parle. Par rapport à ce que dit Madame Faucheux, effectivement, on a des progrès énormes qui sont faits en matière de recyclage. Mais on peut voir, par exemple, que pour le verre, du verre recyclé, c'est encore 75% d'énergie par rapport aux autres formes. Donc, c'est quand même pas quelque chose.
C'est pas un gain énorme.
C'est pas un gain énorme. Le gain serait plus important, si je prends cet exemple-là, si on envisageait de nouveau des systèmes de consignes, etc., pour les bouteilles. Mais ça suppose toute une réorganisation des circuits, et ça suppose aussi de remettre en cause, finalement, le travail, la production d'un certain nombre d'entreprises. Donc, en fait, de les mettre, je dirais, presque en situation de décroissance. D'où une question qui se pose pour les entreprises, comment résoudre ces problèmes et comment passer à travers ces contraintes écologiques.
Parce que la vision des entreprises, c'est à ça que ça sert aussi une entreprise, hein, c'est à faire de l'argent, c'est peut-être absolument aussi une vision économique. Le problème est financier, Sylvie Faucheux. Il y a les réponses techniques, vous les avez énumérées, elles existent. Est-ce que le problème, bah, pour le système de production, il n'est pas essentiellement économique?
Alors, en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, puisque pour moi, l'environnement aujourd'hui, c'est pas une contrainte, c'est une vraie opportunité, donc de compétitivité pour les entreprises, qui pour certaines l'ont bien compris, puisque cela permet d'innover, et donc c'est l'innovation qui permet d'être concurrentiel sur le marché. Cela leur permet aussi de faire des gains en coût de production. Par exemple, l'industrie papetière, eh bien, on recycle au niveau européen, a permis d'avoir à peu près 30% de gains de coûts de production. Donc en réalité, on n'a pas une antinomie entre économie et écologie. On peut dire que de plus en plus, on a des entreprises qui sont conscientes que cela va leur permettre une nouvelle opportunité économique.
Bernard Christophe, vous voulez rebondir là-dessus ?
Oui, ça je peux rebondir en disant tout à fait d'accord pour l'innovation, mais la question qui se pose quand même, alors qu'on parle de croissance verte, c'est que finalement, il n'y a pas de diminution globale de la pollution. Les entreprises, effectivement, ont fait des progrès, mais d'un autre côté, comme il y a une augmentation très importante, finalement, de la consommation, de la production, etc., cela entraîne encore toujours une augmentation, finalement, des émissions, soit de CO2, soit de consommation de matières premières, etc. Et donc, la question qui se pose quand même pour l'entreprise, et là, je pense que les entreprises ne sont pas en mesure elles-mêmes de résoudre tout. Et là, je dirais, il faut peut-être une intervention de l'État pour être une sorte de régulateur par rapport à ces entreprises qui vont se retrouver dans des situations délicates où elles devront peut-être abandonner certaines productions.
Sylvie Faucheux, oui.
Alors, je pense qu'il y a certaines entreprises et certains secteurs qui vont disparaître, des emplois qui vont disparaître, bien entendu. On est dans une phase de transition. C'est une véritable révolution, de la même façon que
la destruction créative.
Voilà. Donc, de la même façon que on a une transition digitale, on a une transition énergétique, écologique, des emplois, des métiers, des secteurs vont disparaître. Je parlais, par exemple, effectivement, de la production d'acier, de la production d'aluminium, de la chimie. On parle de chimie verte aussi dans les 20 prochaines années. Donc, il va y avoir une évolution. Il faut préparer cette évolution. C'est-à-dire que, en fait, on va avoir des entreprises qui vont être très compétitifs parce qu'elles auront investi dans la recherche et développement. Elles vont même arriver puisqu'on a de plus en plus de start-up aussi dans ces domaines-là. Et puis d'autres qui effectivement risquent de disparaître. Et donc il y a tout un travail là de formation. Je mets mon autre casquette. Il faut absolument anticiper et avoir une formation et une formation aussi continue pour les métiers actuels pour qu'ils puissent se transformer dans des bonnes conditions.
Et oui. Cette prise de conscience, vous sentez qu'elle existe l'un et l'autre dans les milieux économiques, dans les entreprises
Je pense qu'elle existe plus dans les entreprises qu'elle existe au niveau étatique, malheureusement.
Oui, non, d'accord, mais enfin, je voudrais un petit peu rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, l'innovation va permettre aux entreprises de faire un certain nombre de choses, mais si on prend, par exemple, la transition énergétique, la loi de transition énergétique, elle prévoit, quand on regarde, par exemple, des scénarios qui ont été faits à partir de ces éléments, comme le scénario négawatt, on nous annonce 600 à 800 000 emplois, création d'emplois. Donc, effectivement, on va dans le bon sens. Simplement, il faut faire attention, ça va être des emplois moins rémunérés. Là, il y a un gros problème qui se pose.
En termes de niveau de vie
Si on reste avec la notion de pouvoir d'achat telle qu'elle est actuellement. Mmh. Mais par contre, on peut aussi avoir une autre notion de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on nous dit, c'est la possibilité de consommer une certaine quantité de biens ou de services. Mais si vous consommez, si vous achetez un bien qui a une durée de vie de 10 ans, c'est pas la même chose qu'un bien qui a une durée de vie de 5 ans. Vous êtes plus riche. Et en fait, ça, c'est complètement ignoré par la notion de pouvoir d'achat. Donc, je prends cet exemple-là, il y en a d'autres. Et donc, c'est une remise en cause, finalement.
Sylvie Faucheux, les entreprises ont pris conscience de ce défi ou c'est encore beaucoup de formation, comme vous le disiez?
Alors, beaucoup d'entreprises ont pris conscience, et celles qui sont les plus, enfin celles des secteurs les plus concernés quand même, c'est le cas on va dire au niveau de tout ce qui est mobilité, la construction, tout ce qui est par exemple aussi la gestion des villes avec les smart cities, les chinois, parce qu'on parle de la France mais on peut regarder aussi ce qui se passe au niveau international. La Chine aujourd'hui est en train d'investir massivement pour produire des smart cities, des villes durables, des villes propres, des villes intelligentes. Et donc, en fait, je pense, vous avez tout à fait raison, qu'il va y avoir des difficultés à un certain moment, mais même en termes de pouvoir d'achat. Là encore, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si on va dans l'économie circulaire, ce sont des emplois de plus en plus qui vont être créés de nouveau en France et sur les territoires, puisqu'on va être amené à recycler localement et utiliser des matériaux recyclés.
Il y a la nécessité de penser local, c'est
oui, voilà. Il y a des opportunités pour créer des nouvelles activités dans les territoires.
Bon, d'accord pour l'aspect local, etc. Mais en dehors de l'économie circulaire, il y a quand même l'économie de la fonctionnalité.
Oui.
Donc ça veut dire que l'économie de la fonctionnalité, on utilisera les produits pendant plus longtemps, donc on en produira moins. Donc il faut se poser une question pour les entreprises, comment survivre finalement à l'économie de la fonctionnalité. Ça, c'est ce cas-là. L'autre problème, c'est l'obsolescence programmée. Donc, on a des lois, etc., qui visent donc à faire disparaître cette obsolescence programmée. Mais si on fait disparaître l'obsolescence programmée, c'est la même chose. C'est des biens qui durent plus longtemps et donc une production qui diminue. Ce qui est très bien pour l'environnement. Mais qui pose un problème économique qu'il faut résoudre.
Sylvie Faucheux.
Alors, je pense que, en fait, on va avoir des coûts de production qui vont diminuer, puisque les matières premières vont avoir un coût plus faible, puisqu'elles vont être recyclées, donc on n'aura plus besoin, ça va nous donner une indépendance.
Le recyclage coûte un peu d'argent quand même.
Oui, mais ça coûte moins cher que certaines matières premières. Donc, et ça, il y a des exemples dans de nombreux secteurs. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que la génération Y, les jeunes, ont besoin de valeurs et sont aussi, on a pu remarquer que les entreprises qui sont les plus performantes en matière environnementale sont aussi celles qui vont drainer les meilleurs talents et qui vont avoir des jeunes talents qui vont être intéressés pour pouvoir s'investir. Donc, plus grande productivité du travail aussi.
Peut-être la prise de conscience est plus importante chez les jeunes aussi, effectivement.
Les générations Y, oui.
Mais là, je pense, je veux pas jouer être trop pessimiste, mais je crois que vous avez un tableau un peu idyllique de certaines choses. Par exemple, en matière d'utilisation, je prends un exemple, en matière d'utilisation des gravats provenant de destruction d'immeubles.
C'est la majorité des déchets aujourd'hui
France. Hein, bâtiment.
Oui.
Bien sûr. Et donc, on essaye de faire, de les transformer en matériaux de base pour notamment faire des routes, etc. Quand on regarde de près ce qui se passe dans les entreprises, on a des problèmes très techniques de gestion. Et là, c'est le gestionnaire qui parle avec des produits, des coproduits, des besoins qui font que on n'est pas directement dans l'aspect, on n'a plus besoin d'avoir des carrières, On fait du recyclage de déchets et...
Oui, mais on peut produire avec, on peut produire des bâtiments avec des éco-matériaux. Mmh. Et c'est ce qui va se passer aussi de plus en plus. Et donc, recyclable. Donc, c'est l'utilisation des matériaux en amont.
Si d'accord, c'est une très bonne chose. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il n'y a pas que ça.
Alors, une question que je me suis posée en préparant cette émission et en me documentant un petit peu. Comment est-ce qu'on gère la démographie, la population mondiale, oui, elle augmente de manière très importante. On est 7,6 milliards d'êtres humains aujourd'hui sur Terre. Et à la fin du siècle, l'ONU prévoit plus de 11 milliards d'habitants. Oui. Donc les besoins de consommation et donc de production augmentent également. Comment est-ce qu'on fait ça en étant décroissant, Bernard Christophe ?
Mais attendez, c'est... Alors là, vous posez le problème de la décroissance, oui, mais... Le
alors que la population mondiale est en croissance.
Oui. Bon, ben justement, il faut arriver à satisfaire les besoins de chacun. Il faut que les besoins soient moins importants, moins utilisateurs, je dirais, de matières premières, d'énergie, etc. Mmh. Donc, justement, face à cette population qui augmente, pour arriver à stabiliser justement ce que l'on a en matière de pollution, en matière de consommation de matières, etc. Hein, je dis pas que les choses sont simples, mais si on se pose pas la question, il y a quand même plein de choses qui sont faites dans des processus qui sont inutiles. Hein, on peut prendre des exemples.
C'est ce que vous voulez dire, simple. C'est qu'il faut s'intéresser davantage à ce dont on a besoin, peut-être par rapport à ce dont on a envie. C'est ça que.
Mais non, mais
produire différemment aussi.
On peut produire différemment, mais je vais vous prendre un exemple très anecdotique. Hein. Mais chaque jour, quand vous allez acheter votre baguette de pain chez un boulanger, on vous donne un bout de papier avec dans lequel vous mettez votre pain. Mm-hmm. Il y a 30 ans, ça n'existait pas. Ce bout de papier, vous allez rentrer chez vous, vous le mettez à la poubelle. Bon, si vous supprimez ce papier, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau dans la mer. Certes, mais voyez, ça va pas changer votre vie. Il n'y a pas de frustration. Mais le résultat, vous consommez moins d'énergie, vous consommez moins de matières premières. Bon, je prends cet exemple qui est très anecdotique, mais il n'est pas le seul.
Sylvie Faucheux, on va reparler de ce que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure. La Chine fait d'énormes efforts pour lutter contre la pollution atmosphérique tout en restant l'atelier et l'usine du monde. C'est quand même toujours le cas. Donc ça veut dire que c'est possible de faire évoluer la production.
Alors, c'est-à-dire que la Chine, quand même, il était temps qu'elle réagisse. Absolument, vu l'état de la pollution, ça posait même problème.
Mais ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années.
Et ça va beaucoup mieux. Et en fait, ils sont en train de construire des villes sur un tout autre mode, en fait. Hein, donc, avec des possibilités. Alors, ce qui est possible, parce qu'ils partent de rien. C'est des villes, on va dire, complètement nouvelles, avec des bâtiments intelligents, des bâtiments qui utilisent aussi des matériaux recyclables, une mobilité plus durable. Donc, il y a là un travail important qui est fait au niveau de la Chine. Mais on peut aussi donner le cas des États-Unis. Hein. Donc, les États-Unis sont ceux qui investissent depuis maintenant plus de 20 ans dans des innovations radicales et qui vont arriver sur le marché en 2025-2030. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a cette transformation qui est en train de s'opérer.
Bernard Christophe ?
Alors, d'accord pour dire que la Chine essaye de jouer la carte environnementale.
L'Inde aussi, d'ailleurs.
Écologique. Bon, l'Inde aussi. Mais il faut voir aussi la réalité. C'est que la Chine prévoit quand même encore l'ouverture de nombreuses centrales au charbon. Donc, ça, c'est un vrai problème. Parce que nous sommes quand même à la limite de ce qui est supportable, disons, par la planète, sans aucun problème. Mmh. Et donc, si on la franchit, on ne sait pas trop où on va aller.
Ah, je suis d'accord avec vous.
La décroissance, justement, on risque de l'avoir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on le voit bien avec, par exemple, l'élévation du niveau de la mer, qui entraîne, par exemple, des entrées de sel sur les terres, et par exemple, dans le delta du Nil, ou même en Camargue, les agriculteurs ont des problèmes parce qu'ils ont de l'eau salée au lieu d'avoir de l'eau douce. Et le risque, c'est d'avoir une décroissance. C'est-à-dire qu'en fait...
Une décroissance forcée, c'est ce que vous dites.
Une décroissance forcée,
c'est le risque. Je suis d'accord, dans une phase de transition, je pense qu'on peut avoir ça dans une phase de transition. Mais je pense qu'il y a énormément de solutions qui sont en train de se mettre en place. Mais est-ce qu'on a le temps?
Tout à fait d'accord, mais je crois qu'il faut jouer sur les deux.
Absolument.
Sur l'innovation.
Nous sommes tout à fait d'accord.
Une réflexion sur, entre autres, la décroissance. C'est pas... Je crois que ni l'une ni l'autre ne sont la panacée. Non.
Merci Bernard Christophe, merci à vous Sylvie Faucheux pour votre participation à cette émission et pour ce constat d'accord finalement. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage qui était à la coordination, Charles Barret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurie Plisson. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.